Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Les premières mesures radicales d'Emmanuel Macron contre le séparatisme islamiste. Le président ne veut plus d'imams détachés en France. Il supprime les ELCO, les enseignements de langue et culture d'origine. Emmanuel Macron qui, au passage, met en garde la Turquie d'Erdogan, soupçonné de vouloir renforcer son influence sur les élèves franco-turcs. Les explications de Rosalie Lafarge dans un instant. Deux mises en examen dans l'affaire Griveaux. L'activiste russe Piotr Pavlinsky et sa compagne Alexandra de Tadeo. Ils sont poursuivis notamment pour atteinte à la vie privée. Ils ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Les précisions de Florence Turme. La Russie ferme son territoire aux ressortissants chinois. Moscou qui réagit vivement à la crise du coronavirus qui a déjà fait plus de 1900 morts en Chine. La correspondance de Claude Bruyot. Une vingtaine de chrétiens tués par des djihadistes ce week-end au Burkina Faso. La communauté chrétienne est de plus en plus souvent prise pour cible par les islamistes au Sahel. Nous en parlerons avec notre invitée Claire Lacroix de l'ONG Portes Ouvertes. Emmanuel Macron avait promis des mesures fortes contre le séparatisme islamiste à l'occasion de son déplacement à Mulhouse. Et de fait, le président a annoncé ce soir des décisions qui ne manqueront pas d'alimenter la polémique. Il limite les influences étrangères sur les musulmans français et il met un terme à des programmes scolaires qui échapperaient au contrôle de l'éducation nationale. Emmanuel Macron s'exprimait depuis le quartier mulhousien de Bourtzwiller, un quartier de reconquête républicaine selon la terminologie officielle. On retrouve sur place à Mulhouse notre envoyée spéciale Rosalie Lafarge.
Le séparatisme islamiste est incompatible avec la liberté et l'égalité, incompatible avec l'indivisibilité de la République. Voilà les mots d'Emmanuel Macron devant des responsables locaux et des habitants du quartier de Bourtzwiller. Et de se lancer dans une énumération. Dans la République, on ne peut pas accepter qu'on refuse de serrer la main à une femme parce qu'elle est femme. On ne peut pas accepter la déscolarisation. On ne peut pas exiger des certificats de virginité pour se marier. On ne doit jamais accepter que les lois de la religion puissent être supérieures aux lois de la République. Résume Emmanuel Macron. Le président assure qu'il y travaille depuis des mois, à bas bruit, et il annonce plusieurs mesures fortes, dit-il. La fin de l'accueil en France des imams détachés par d'autres pays, comme la Turquie et l'Algérie. La fin aussi de l'accueil des quelques 300 psalmodieurs reçus chaque année durant la période du Ramadan. La fin enfin des ELCO, ces enseignements en langue et culture d'origine. Ils sont dispensés par des enseignants sur lesquels l'éducation nationale n'a aujourd'hui aucun contrôle. On parle de 80 000 élèves concernés et parfois de dérives constatées. Emmanuel Macron veut qu'il fasse l'objet d'un contrôle, qu'il parle le français et qu'il respecte les lois de la République. Dans ce domaine, c'est avec la Turquie que les choses semblent les plus compliquées aujourd'hui. Avec tous les autres pays concernés par ces ELCO, des solutions ont été trouvées pour transformer ces enseignements, pas avec la Turquie. Je ne cherche à froisser personne, assure Emmanuel Macron, mais je ne ménagerai personne, précise immédiatement le président, qui conclut, on ne peut pas avoir les lois de la Turquie sur le sol de France. Ça, c'est non.
Merci Rosalie Lafarge. Et effectivement, on retiendra de ce déplacement à Mulhouse ces mots très forts d'Emmanuel Macron sur l'influence turque en France. Des mots qui sonnent comme une mise en garde au président turc, l'islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan.
La Turquie a aujourd'hui le choix de suivre ce chemin avec nous ou pas. Mais je ne laisserai aucun pays étranger nourrir sur le sol de la République un séparatisme, qu'il soit religieux, politique ou identitaire. On peut avoir une culture, une famille, une identité qui s'ajoute et vient enrichir son appartenance à la République. On ne peut pas avoir un projet qui, au nom de ses origines, vise à ne pas s'intégrer dans la République. Et je le dis à tous nos concitoyens qui sont d'origine turque ou qui sont binationaux, il y en a beaucoup dans cette ville, j'en ai d'ailleurs beaucoup vu tout à l'heure, ils sont à mes yeux pleinement français. Et je souhaite qu'ils soient pleinement français. Et c'est parce que je veux les traiter comme des citoyens français que je veux qu'ils aient les mêmes droits que tous les Français, mais aussi qu'ils soient soumis aux mêmes lois que toutes les Françaises et tous les Français. Mais on ne peut pas avoir les lois de la Turquie sur le sol de France. Ça, c'est non.
Emmanuel Macron ce soir à Mulhouse, un peu plus tôt dans la journée, le président avait eu cette petite phrase résumant son action contre le séparatisme islamiste. « L'islam politique n'a pas sa place en France », a-t-il martelé. L'activiste russe Piotr Pavlinsky et sa compagne française Alexandra de Tadeo ont retrouvé la liberté ce soir. Mais tous deux sont mis en examen dans l'affaire Griveaux. La justice leur reproche d'avoir joué un rôle décisif dans la diffusion des vidéos sexuelles qui ont poussé Benjamin Griveaux à renoncer à la mairie de Paris. Avec vous Florence Turm, voyons le détail de cette double mise en examen.
Atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans accord de la personne d'images à caractère sexuel, Piotr Pavlinsky et sa compagne Alexandra de Tadeo ont été mis en examen pour les mêmes motifs et tous les deux laissés libres sous contrôle judiciaire, mais avec interdiction de se rencontrer. Le parquet avait requis le placement en détention provisoire de l'artiste russe, mais dans le cadre d'une autre affaire, moins retentissante sur un plan médiatique, mais aux conséquences judiciaires plus lourdes, une rixe survenue le soir du Nouvel An, dans un appartement parisien, l'artiste russe est soupçonné d'avoir porté des coups de couteau à deux invités. Dans ce dossier, il n'a pas été mis en examen, en tout cas pas encore. Il devra répondre à une nouvelle convocation de la justice dans les prochains jours. L'instruction de l'affaire Griveaux, elle, va s'attacher à déterminer les circonstances précises de mise en ligne des vidéos, de leur diffusion et des intentions de ceux qui y ont contribué, dans la mesure où plusieurs voix se sont déjà élevées pour dénoncer un complot politique. Alexandra de Tadeo a indiqué qu'elle était bien la destinataire de ces vidéos intimes. Elle conteste en revanche son implication dans leur diffusion.
Florence Turm, merci. À noter que Piotr Pavlinsky s'est finalement trouvé un avocat, Yacine Bouzrou. Maître Bouzrou qui assure aussi la défense de Tariq Ramadan accusé de viol. Pavlinsky avait sollicité dans un premier temps Juan Branco, mais l'essayiste était présent à cette fameuse soirée qui vaut à l'activiste russe une deuxième mise en examen. Le bilan du coronavirus continue à s'alourdir en Chine. 1868 morts et plus de 72 000 personnes contaminées selon les derniers chiffres. Pékin affirme toutefois qu'il y a des signes encourageants. Le nombre de décès quotidiens est en recul pour la quatrième journée consécutive, de même que le nombre de nouvelles contaminations. En attendant, certains pays prennent des mesures radicales pour se prémunir de l'épidémie. La Russie annonce ce soir qu'elle interdit son territoire à tous les ressortissants chinois. Claude Brouillot nous appelle de Moscou.
Les autorités sanitaires russes justifient l'interdiction d'accès à leur territoire pour tous les ressortissants chinois en raison, disent-elles, de l'aggravation de l'épidémie chez leurs voisins avec qui elles partagent plus de 4000 km de frontières. À compter de ce jeudi 20 février, seuls les citoyens chinois effectuant des vols en transit par les aéroports russes seront tolérés, mais dans la mesure où les liaisons aériennes à destination et en provenance de Chine sont déjà extrêmement limitées du côté russe, la mesure s'apparente carrément à une interdiction massive. Néanmoins, de nombreux Chinois, étudiants ou travailleurs, sont présents en Extrême-Orient russe, mais aussi dans les grandes villes de Russie d'Europe. Pour autant, malgré une telle proximité, la Russie n'a pas officiellement de malades du coronavirus, un constat que les autorités ici expliquent par la précocité de mesures strictes, comme la fermeture de tous les points de passage terrestre russo-chinois dès le mois dernier.
Claude Brouillot, correspondant en Russie. Ce nouveau regain de tension dans le Donbass, en Ukraine, un soldat ukrainien a été tué et 5 autres blessés dans des combats ce matin avec les séparatistes pro-russes dans l'est du pays, dans un incident dénoncé à Kiev comme une provocation. Les rebelles et les occupants russes ont organisé une provocation cynique dans une tentative de faire échouer le processus de paix. Voilà ce que déclare sur Facebook ce soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les massacres de chrétiens se multiplient au Burkina Faso. Une vingtaine de personnes ont encore été tuées ce week-end dans l'attaque d'une église protestante à Pansi, dans le nord du pays. L'an dernier, une cinquantaine de chrétiens burkinabés avaient déjà été assassinés. Des attaques attribuées aux groupes djihadistes qui sévissent dans la région sahélienne. Et cela malgré l'opération Barkhane qui mobilise plus de 5000 soldats français. On en parle avec l'invité de ce journal, Claire Lacroix, responsable de l'information au sein de l'ONG chrétienne Portes Ouvertes. Bonsoir.
Bonsoir.
Claire Lacroix, comment expliquer cette recrudescence des attaques contre des chrétiens au Burkina Faso ?
C'est une tendance générale dans la région. Déjà depuis 2015, on a vu que des groupes extrémistes étaient en train de se mettre en place et bien de plus en plus, ils prennent de l'ampleur, ils continuent à faire leurs actions et le problème c'est que ils ne rencontrent pas grande résistance en fait. Donc les populations civiles ne savent pas quoi faire, elles sont déplacées. Il y a en ce moment des centaines de milliers de déplacés au nord du Burkina Faso. Et avec ce qui s'est passé dimanche, donc une attaque dans un village de Panti à la frontière du Niger, donc une église qui a été attaquée, eh bien il y a encore là eu des déplacements de population.
Ce sont des chrétiens isolés qui sont pris pour cible, catholiques comme protestants ?
Alors il y a 25% de chrétiens au Burkina Faso. Le Burkina Faso a vraiment une tradition de tolérance religieuse et c'est cette tradition qui est mise à mal. Il y a des attaques qui sont effectivement juste des chrétiens isolés, comme ça s'est passé la semaine dernière. Donc un pasteur protestant a été violemment tué alors qu'il était dans sa voiture. Et ensuite, sa voiture a été utilisée pour kidnapper un autre pasteur avec plusieurs membres de sa famille. Donc on a à la fois des attaques qui visent des protestants, qui visent des catholiques, et aussi des attaques isolées et des attaques de plus grande ampleur, comme on a pu justement assister ce week-end.
Est-ce que selon vous, il y a une volonté délibérée de frapper les chrétiens ou bien les djihadistes frappent les civils sans distinction ?
Alors, les djihadistes frappent les symboles de l'État. Il y a des cibles militaires, des écoles. En ce moment même, il y a des milliers, plus de 2000 écoles fermées, plus de 300 000 élèves sont affectés. Mais également, on constate qu'il y a des attaques contre les églises et les chrétiens. Toute la population est concernée, mais il y a effectivement cette spécificité. Et d'ailleurs, le 19 décembre dernier, le Parlement européen a adopté une résolution sur les violations du droit de l'homme, y compris de la liberté de religion. Et cette résolution considère que, en raison de la radicalisation islamiste, eh bien, les chrétiens étaient spécifiquement persécutés. Et cette résolution, d'ailleurs, demande plus de sécurité pour empêcher même l'élimination de la présence chrétienne dans la région. On a vu, dans plusieurs cas, plusieurs attaques, notamment le 28 avril 2019, des djihadistes qui sont arrivés dans un village et ils ont demandé à chacune des personnes qui étaient là, c'était à la sortie du culte devant une église, ils ont demandé aux personnes qui restaient devant l'église à discuter sous un arbre, est-ce que vous voulez renier votre foi ? Et si vous reniez votre foi et que vous adoptez notre religion, eh bien à ce moment-là, vous aurez la vie sauve. Les personnes qui étaient présentes ont refusé et elles ont été une après une, prises derrière l'église et ils les ont assassinées. Dans d'autres cas, on a vu qu'ils venaient dans des villages et qu'ils demandaient « quel est votre prénom ?» Et tous ceux qui avaient des prénoms chrétiens ont été assassinés. Donc effectivement, il y a là une volonté délibérée de cibler les chrétiens et également de faire en sorte que cette coexistence interconfessionnelle au Burkina soit mise à rude épreuve.
Claire Lacroix, on sait qu'il y a plusieurs groupes djihadistes qui opèrent dans la bande sahélienne et tous s'en prennent aux chrétiens avec l'objectif de les éradiquer.
Effectivement, ils ont tous plus ou moins une vision pour faire partir les chrétiens. Après, ils ne le font pas forcément tous de la même manière et de la même ampleur. Le problème, c'est que les attentats ne sont pas revendiqués. Ce sont souvent des groupes locaux, qui sont des gens qui sont locaux, qui sont radicalisés, qui appartiennent à tel ou tel groupe. Mais il est vraiment difficile de savoir exactement quel groupe terroriste mène telle ou telle attaque. Il y a au moins 7 groupes terroristes qui sont dans la région. Ce qu'on sait, c'est que c'est toujours plus ou moins le même mode opératoire. Des personnes, en général des jeunes hommes qui habitent probablement dans la région, qui arrivent en moto, qui sont extrêmement mobiles et qui viennent soudainement attaquer un village, une église et qui repartent aussi vite qu'ils sont arrivés en faisant des dégâts, en tuant, en installant la terreur et aussi ils enlèvent des personnes et c'est ce qui s'est passé dimanche. Ils sont arrivés, ils ont tué environ 24 personnes, il y a aussi des blessés et puis il y a plusieurs personnes aussi qu'ils ont pris avec eux. C'est vraiment un climat de terreur qui s'installe parce que la population ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi faire. Cette région devient un nouveau foyer et ce terrorisme est en train de descendre vers le sud et on a un risque de voir les pays voisins même contaminés comme le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire si cette tendance continue.
Claire Lacroix de l'ONG chrétienne Portes Ouvertes, merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. Et puis à noter que l'opposition politique burkinabé a appelé aujourd'hui le pouvoir à sécuriser les lieux de culte dans tout le Burkina Faso. Jean-Hubert Bazier, président du parti L'Espoir, demande au gouvernement la création d'un observatoire national des libertés religieuses. Une une façon, selon lui, de lutter contre la propagande islamiste qui créerait les conditions d'un affrontement interreligieux dans le pays. Cette information en provenance de Turquie, le mécène Osman Kavala, figure majeure de la société civile turque, a été placé en garde à vue ce soir. Un procureur avait réclamé son arrestation quelques heures seulement après son acquittement dans un procès emblématique. Selon l'agence de presse turque Anadolu, M. Kavala a été placé en garde à vue au siège de la police antiterroriste à Istanbul dans le cadre d'une enquête liée à la tentative de coup d'État visant le président turc Erdogan en 2016. On termine ce journal avec la météo. Le temps restera gris sur la moitié nord demain, mais la pluie s'estompera au fil des heures. Ailleurs, des éclaircies l'après-midi sur le sud-ouest et un grand soleil sur les régions méditerranéennes. Température minimale matinale comprise entre 0 et 11 degrés du nord-est aux régions littorales. Pour les maximales, comptez de 7 à 13 degrés au nord, 10 à 18 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.